excellente année.
Miam Miam, une émission de Daniel Fazan et Jean-Charles Simon.
C'est le Miam Miam qui crève la dalle, centrale et fédérale. C'est le Miam Miam qui est subi subitement, sournoisement. C'est le Miam Miam qui nous faut trop, c'est tropical pour être honnête. C'est le Miam Miam qui s'en fiche à situer dans la rue.
Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans Miam Miam, dernier Miam Miam de l'année, mini-magazine destiné à vous mettre l'eau à la bouche. Daniel, bonjour.
Bonjour Jean-Charles Simon.
Daniel, chaque année à la même époque, une pléiade de questions fondamentales me saisit.
Existentielle.
Existentielle, et je suis sûr que cette année encore, je ne trouverai pas la réponse.
Ça, j'en suis certain aussi.
Alors, je compte sur vous.
Merci.
Pour m'aider à la chercher.
J'y vais.
N'avez-vous pas l'impression, cher Daniel, que la fameuse maxime qu'on se plaît à répéter inlassablement, notamment dans Miam Miam, « Il vaut mieux manger moins et manger mieux », variante du « boire moins mais boire mieux », est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette maxime est devenue aujourd'hui indécente, sinon odieusement snob en cette période de crise ?
C'est vrai.
Hein ? Que finalement, même chez nous, pour beaucoup, la vraie problématique n'est plus de manger mieux, mais de manger suffisamment.
Ouais.
Hein ? C'est bien d'aborder ces problèmes juste
le matin,
le matin, le 31 décembre.
Devant une belle assiette.
Oui. Autre question corollaire. La grande distribution a-t-elle développé le goût des masses ou l'a-t-elle abaissé ?
Alors ça, j'ai la réponse.
Oui. Mais elle n'est pas si simple, vous allez voir. Bon, parce que elle a permis pendant cette grande distribution au plus grand nombre l'accès à des produits jadis réservés à une minorité.
C'est vrai.
Hein ? Par exemple, les huîtres. Jusqu'il n'y a pas si longtemps, elles étaient pratiquement inconnues dans nos campagnes.
C'est pas vrai. On en a retrouvé dans les ruines romaines.
Bien entendu. Mais après les Romains, je veux dire, le paysan de la Brabant, il y a eu un trou dans la consommation d'huîtres. Hein,
c'est
vous
vrai.
Dire. Bon. Ne me reprenez pas sur chaque phrase, parce que sinon on ne va pas essayer d'accepter de temps en temps ce que je dis, même si ce sont des sottises. Enfin, je continue, mais vous m'avez fait perdre. Ah voilà, le foie gras, grâce à la grande distribution, il a été ramené quasiment au prix du parfait, et il est abordable aux plus modestes des quidams, bien sûr avant que les commandos anti-gavage ne nous ramènent à la conscience de la souffrance animale.
Juste.
Ça, et donc on n'en trouve plus maintenant dans certaines grandes distributions, sous la pression de nos camarades suisses alémaniques, bien entendu. Le saumon fumé.
Oui.
Hein, parlons-en. Autrefois réservé aux fêtes de la Saint-Sylvestre, est devenu aussi commun que le jambon blanc dans les sandwichs de pain de mie de la moindre cafétéria, dont la nôtre. Seulement voilà, est-ce que le poisson fumé industriellement, coloré artificiellement, gavé de conservateurs, mis sous vide et oublié des lustres dans quelque armoire frigorifique, a encore quelque chose à voir avec le saumon fumé de jadis, si rare à se procurer, enfin si rare, en tout cas réservé aux grandes occasions?
Je sais pas, jadis j'étais pas là.
Menteur. Manger de la daube ou ne pas manger, telle est peut-être définitivement la question. Hein ? Ou peut-être on peut la poser d'ailleurs à notre invité du jour. Qu'en pensez-vous, Daniel ?
On va la lui poser. Bon. Serge Porcher, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fumeur. On dit ça comme ça ?
Alors je suis fumeur, mais c'est fumeur qui sont autorisés, non pas de cigarettes, mais fumeur dans un fumeur artisanal.
Et pas fumiste.
D'accord. Alors, à l'armoire à Brume, à Servion, vous faites un très beau travail artisanal avec des poissons. Alors des poissons locaux, des poissons importés, et autour du saumon d'aujourd'hui, 31 décembre, voire 1er janvier, puisque nous sommes rediffusés la nuit aussi, ces saumons ont baissé de qualité, c'est vrai.
Alors, dans le monde du saumon, on trouve tout. Parfois n'importe quoi. L'industrie a permis à chacun de pouvoir goûter et manger du saumon. Et puis c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on sent un courant où les gens recherchent plutôt des valeurs originelles.
Alors c'est quoi la mauvaise qualité du saumon ? C'est quand il est flasque, quand il est coloré, quand on ne peut pas toujours analyser tout ce que l'on mange. Est-ce qu'à l'œil, on peut déjà s'en apercevoir ?
À l'œil, on peut rapidement s'en apercevoir quand un saumon a plus de bandes blanches que de bandes rouges, c'est-à-dire plus de matière grasse que de chair, ça devient inquiétant. Quand sa chair est flasque, quand il suinte du liquide et du gras, et quand il sent plus, je m'excuse, mais la boîte à chat que le poisson frais, là, il y a des inquiétudes à avoir.
Oui, mais attendez, quand ils sont sous vide et compressés, c'est difficile aussi de s'en apercevoir.
Alors, le sous vide a amené beaucoup d'avantages, c'est-à-dire qu'on peut travailler le produit et le garder sur un long terme. Par contre, pour le saumon, l'inconvénient, c'est qu'au fait, étant donné que les bandes de gras et les bandes de chair sont séparées, quand on le tire sous vide, les choses ont tendance à se remélanger. Donc, un saumon tiré sous vide, même s'il est extrêmement bien fait, aura tendance à perdre en qualité.
Alors, repartons des fondamentaux. Saumon fumé, saumon sauvage ou saumon d'élevage?
Alors, saumon sauvage, saumon d'élevage, grand débat. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fait, il y a deux sortes de saumon. On a le saumon atlantique, qui est le saumon qu'on peut trouver encore dans la France, en Gironde, en Irlande, en Écosse, si on continue à monter en Islande et dans le nord du Québec. Donc ça, c'est le saumon atlantique. Celui-là, en sauvage, il n'y en a plus. L'industrialisation a fait qu'il a partiellement disparu. Il en reste pour quelques initiés, quelques pêcheurs amateurs, mais pour la grande distribution, il n'y en a plus. Et puis, vous avez le saumon pacifique. Ça, c'est le saumon qu'on voit qui se fait, dans tous les films, on le voit régulièrement, qui monte la rivière, qui va mourir, qui se fait manger par les ours.
En Alaska.
En Alaska. Et celui-là, il n'existe que sous forme de sauvage. Donc, et c'est pas du tout le même poisson. Il a le même cycle de vie. Les deux sont des poissons de mer qui vont frayer dans les rivières. Mais autrement, ces deux poissons n'ont rien à voir.
Et ça n'a pas le même goût.
Ces poissons n'ont pas le même goût. Les chairs sont différentes. Ils synthétisent le gras de manière différente aussi. Ils ne se trouvent pas à la même place. C'est deux choses complètement différentes. Ils ont la même appellation, saumon, mais vraiment deux familles différentes.
Mais tout le monde a vu ces images à la télévision de parcs flottants, de saumons atlantiques vivant soi-disant en Atlantique, c'est vrai, mais dans des parcs flottants où ils sont tellement nombreux qu'ils se bouffent les uns les autres, ils reçoivent une nourriture qu'on peut pas qualifier de bonne, en tout cas elle n'est pas forcément naturelle, on peut en tout cas en douter. Qu'en pensez-vous de ces saumons-là? C'est pas ceux-là que vous importez?
Alors les saumons qu'on importe sont d'un élevage qui vient tout au nord de l'Écosse, déjà avec une qualité d'eau à 6 à 7 degrés toute l'année, ensuite avec des critères très spécifiques où on a 1,8 mètre cube d'eau par poisson et non 18 poissons empilés dans un mètre cube d'eau. Et ensuite l'alimentation qui est donnée, c'est 66% de petits poissons, 44% de blé. Ces gens qui font ces saumons pour nous ont leurs propres écloseries, donc ils maîtrisent toute la chaîne. Et puis l'autre avantage, c'est qu'au fait l'alimentation n'est pas donnée d'un coup à un moment de la journée, mais toute la journée, il y a des petites particules alimentaires qui arrivent et le poisson doit se battre pour l'avoir. Donc ça va donner une chair qui sera beaucoup plus ferme.
Et comment viennent-ils d'Écosse jusqu'à Cervion? Est-ce qu'ils viennent entiers, en filet, congelés, frais?
Alors pour maîtriser la chaîne, on n'a qu'une solution, c'est d'avoir un poisson qui vient vidé, donc entier et juste vidé. En général, ce que nous recevons le lundi a été tué le samedi et ce que nous recevons le mercredi a été tué le lundi. Donc plus frais, on ne peut pas.
Il arrive dans la glace en plus.
Il arrive dans de la glace en
plus. Dans des camions frigorifiques.
Dans des camions frigorifiques. Et aussi, pour nous, c'est très important de voir le poisson parce qu'il y a des critères, par exemple, la qualité de l'œil, la qualité des ouïes et surtout les nageoires. Un poisson qui a des nageoires tout estropillées, je m'excuse du terme, mais c'est un peu ça.
C'est qu'ils étaient trop serrés dans les...
C'est qu'ils étaient trop serrés, qu'ils se sont frottés dans les filets. Et aussi la grandeur de la queue qui doit être en proportion avec le corps.
Alors, ces saumons, vous allez ensuite les fumer. On peut les fumer de diverses manières. On parle aujourd'hui de fumée liquide, on parle de fumée à froid ou de fumée à chaud. Vous pratiquez évidemment qu'une seule manière de fumer, mais quelles sont les différences entre les trois, là?
Avant la fumée, il y a l'aspect de la salaison aussi qui est très important.
Oui.
On peut ou aborder une salaison en mettant le poisson dans de la saumure, c'est-à-dire de l'eau salée, ou alors en le travaillant avec du sel sec. Nous, nous avons pris la deuxième possibilité, donc sel sec, qui va tirer l'eau des poissons, raffermir les chairs et aviver un petit peu les couleurs. Au niveau de la fumée, on fume à 16 degrés maximum toute l'année.
C'est ce qu'on appelle froid?
C'est ce qu'on appelle à froid, avec des essences de frêne, hêtre et cerisier pendant 20 heures.
Comment on arrive à fumer à froid?
Alors
il faut
là,
bien faire chauffer la sûre quand même, non? À une certaine température pour qu'il y ait de la fumée.
Oui, mais elle circule dans un long tuyau. Quand vous allez à l'armoire à brume, vous voyez ça. Et puis la fumée a le temps de se refroidir, c'est ça?
Alors c'est ça. Donc il n'y a pas de feu. Il y a un foyer où la cirure bourronne tout tranquillement, ce qui dégage une petite chaleur. Et après, ça passe. Ça, c'est dans une pièce qui est ailleurs que le fumoir. Et ça passe après dans des tuyaux de refroidissement pour arriver vraiment à 16 degrés toute l'année.
Donc vous recevez le poisson d'Écosse. Après, ça met combien de temps pour pouvoir arriver jusqu'au produit fini?
Alors jusqu'au produit fini, il faut compter au minimum 3 jours, voire 3 jours et demi, puisqu'il y a la phase de lever les filets, les saler, les dessaler.
Les saler, on les laisse dans le sel combien de temps?
On les laisse environ 4 heures, mais ça dépend aussi de la température extérieure. Donc c'est une moyenne de 4 heures. Ensuite, ils sont brossés, douchés, thalassothérapie, bien sûr.
Oui, d'accord.
Ensuite, on enlève les 27 arêtes à la Bruxelles. Les 26 premières, ça se passe toujours bien. La 27e, c'est celle qui est récalcitrante, qu'on trouve pas ou qui se casse.
Ils ont tous le même nombre d'arêtes.
Ah, c'est comme nous, on a tous le même nombre de côtes.
C'est ça. Mmh. Même les tout grands ou les plus petits.
Les grands ou les petits, le même nombre d'arêtes.
À propos de grandeur, ils sont grands ou petits les saumons que vous recevez? Il y a une taille maximale, une taille minimale?
Alors nous, on fait des commandes spéciales, c'est des saumons qui font 3 kilos maximum. C'est la catégorie 2-3 kilos. Et c'est ce qui est, je dirais, à ce moment-là, le moins rentable, tant pour le fournisseur que pour moi, pour le travail. Mais c'est ce qui donnera la meilleure chair avec le moins de gras possible.
Serge Porchet, les saumons que l'on vend dans le grand commerce, ils sont pour certains extrêmement bon marché. Un jour, Claude Frotté, le grand chef, disait « Je suis scandalisé ». La plupart des aliments pour animaux, les boîtes pour chats, sont pratiquement moins chers que certaines plaques de saumon que je vois et au kilo. C'est une grande différence entre un saumon extrêmement bon marché et un saumon artisanal tel que vous le faites?
Je crois qu'on ne peut pas parler de différence, ce n'est pas le même monde. Il n'y a pas de comparaison.
Non, mais différence de prix, je vous le parle.
Alors, différence de prix, le célèbre saumon dans l'emballage vert, très bon marché, sera à 3 francs les 100 grammes environ. C'est un prix bas, ça, on peut comparer ça à de l'eau et de l'huile, ça fait bien vendu aussi.
Et vous, le vôtre?
Et nous sommes autour des 11 francs les 100 grammes, mais c'est clair qu'au niveau matière grasse, nous sommes en dessous de 15%. Au niveau eau, ben, il y en a le minimum. Donc, une fois qu'on a décortiqué les prix, on a une différence de prix notoire, mais je pense que c'est tout à fait justifié.
Alors, ce qu'on pourrait dire pour un éco-bilan bien meilleur, plutôt que de faire venir du saumon d'Écosse et d'en acheter, on pourrait fumer nos poissons de nos lacs, et c'est ce que vous faites aussi.
Alors ça, c'était notre dernière création, c'est qu'au fait, on s'est mis à fumer de la ferra, du lac Léman, qui nous est fourni par M. Lichty, pêcheur à Villeneuve. Alors là, c'est quelque chose qui se fumait il y a encore peu seulement à chaud, à cause des historiques, des histoires d'hygiène, etc. Et puis maintenant, nous avons lancé le fumage à froid de la ferra pour obtenir une chair qui est très ferme et beaucoup plus vive que ce qu'on peut connaître quand elle est cuite à chaud. Et puis, notre deuxième poisson qu'on travaille, c'est le brochet. Alors les brochets, il y a beaucoup d'a priori par rapport à ce poisson parce qu'il y a des problèmes avec les arêtes. Mmh. Pour enlever les arêtes, on ne peut pas tirer dessus. Il faut faire un petit peu de la chirurgie, c'est-à-dire faire une incision, suivre les arêtes et arriver dans la partie où il y a un Y.
Oui.
Et puis vraiment, c'est vraiment de la chirurgie. Il faut vraiment décortiquer le poisson et le reconstituer après.
Un sacré boulot. Hein. Ouais.
Et puis une fois qu'on est arrivé à enlever les arêtes, là, on coupe des pavés de brochets que l'on finit avec une marinade vin cuit et poivre noir. Mmh. Pour arriver à une chair qui est très très ferme, et puis que oui. Si on ne sait pas ce que c'est, on ne pourrait pas associer ça à un poisson de chez nous.
Vous avez l'assiette aussi devant vous que Serge Porchet nous a préparé, Jean-Charles. Vous aimez ces poissons, vous sentez bien les textures différentes, c'est fou.
Oui.
Hein
oui,
le brochet, c'est ferme. Hein
oui.
Pourquoi est-il si ferme?
Alors, le brochet est ferme parce que c'est un poisson déjà qui a une chair qui est ferme à la base. Mmh. Et puis, notre façon de le travailler, on le met un certain nombre d'heures dans du sel, va tirer encore l'eau de ses chairs et puis les raffermir. Ensuite, le vin cuit, je pense, a aussi une acidité qui va continuer à maintenir cette chair aussi ferme que ça.
J'aime vraiment beaucoup.
Alors, il y a un produit très mode, c'est les cœurs de saumon. Qu'est-ce que vous en pensez, les cœurs de saumon?
Alors, le cœur de saumon a été inventé par l'entreprise Balic, qui est une entreprise avec une très grande renommée. C'est une façon de faire, je dirais, qui permet de servir des saumons qui sont plus grands, d'enlever les parties latérales, et puis de vendre la partie du milieu à un prix...
Le filet mignon.
Le filet mignon, voilà.
En quelque sorte.
Exactement.
Ouais. Et c'est cher.
Alors, c'est cher.
Et ça on fait quoi du
certaine,
reste?
C'est une certaine renommée.
Oui.
Le reste est souvent transformé en mousse.
Ah oui.
C'est une façon de faire. Personnellement, j'aime mieux partir avec des plus petits saumons et puis d'employer tout le produit.
Alors ces jours, Christophe Lichty n'a pas le droit de pêcher la ferra parce qu'il y a une sorte de pause hivernale pendant une période de frais. Mais lorsqu'il reprendra, il pêchera évidemment ou involontairement des ferras avec des œufs les femelles, et vous en ferez quelque chose. Là, vous avez de nouveau découvert quelque chose.
Alors, on n'a rien découvert, disons qu'on a ressorti des vieilles recettes. Les œufs de ferrat peuvent être travaillés, donc nettoyés, légèrement salés et mis en bocaux. Et il y a tout un marché là qui peut être conquis. C'est vraiment très très bon.
Ça ressemble à du caviar ?
Non, pas du tout. Ça ressemble plutôt à ce que les Japonais et les Russes mangent par rapport à des œufs de saumon.
Ah ouais.
C'est gros comme les œufs de saumon, c'est plus petit ?
C'est un petit peu plus petit.
Plus petit. Et c'est rose, et c'est orange.
C'est très très orangé et c'est très fin au niveau des chairs.
Alors les Espagnols font des œufs de mulet qui sont totalement noirs. Ça ressemble un peu aux œufs de lampe, mais ça a pratiquement pas de goût. J'étais extrêmement déçu. J'ai voulu goûter ce type de produit, pas terrible.
Alors, je connais pas l'œuf de mulet. Ouais. Ça m'étonne qu'ils soient noirs. Je pense qu'ils sont teintés,
oui,
souvent avec l'encre de sèche.
D'ailleurs, les œufs de lampe le sont aussi.
Alors ça, c'est le mythe du caviar. Il y a plein de gens qui essayent de s'approcher de ceci.
Oui. Dites-moi, là, nous avons une assiette donc avec de la ferrat, du brochet et du saumon. Votre saumon n'est pas pré-tranché, ça doit être embêtant quand même. C'est difficile à préparer, non ?
Alors les clients au début sont toujours un tout petit peu gênés. Alors je leur demande de venir derrière à l'atelier et puis je leur montre qu'au fait, une chair de saumon qui est correctement préparée s'associe plutôt à de la viande au niveau de la texture et que ça se coupe vraiment tout seul.
Alors vous le servez ici, là en l'occurrence, avec un tout petit peu d'huile vanillée. C'est une huile, j'imagine, d'olive.
C'est une huile d'olive vanillée. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'au fait, le saumon, il y a de nombreuses années, il se pêchait quand il arrivait dans les rivières. Et puis, pour le conserver, eh ben, on faisait du mieux qu'on pouvait. C'est-à-dire qu'on le fumait, on le mettait dans les endroits frais, mais on n'avait pas de frigo. Alors qu'est-ce qu'on faisait ? Ben, on y mettait des oignons, des citrons, tout plein de produits qui anesthésient un petit peu notre bouche. À vous de manger ce saumon qui était, on peut dire, décadent.
Alors, donc c'est interdit, les oignons et les citrons.
Pour moi, et
les capres.
Pour moi, un bon saumon se consomme nature, sans toast, avec un bon pain bis avec une fermentation longue. On peut y mettre un petit peu d'huile d'olive. Personnellement, j'ai ajouté un petit peu de vanille à mon huile d'olive et je propose de consommer ça avec un whisky qu'on peut diluer avec un tout petit peu d'eau. Et pour moi, si on ferme les yeux, on se retrouve en Écosse.
Un peu de beurre sur le pain ou pas de beurre ?
Le beurre est aussi quelque chose d'acide, donc je propose qu'on ne rajoute pas de gras au saumon où on a fait de gros efforts pour en enlever un maximum.
Le réfort comme le réfort, non plus ?
Non plus.
Non plus. Bon, d'accord. Bah, allez, bon.
Moi, j'aimerais revenir sur la coupe, la découpe, Serge Porchet, parce que j'ai reçu l'autre jour un cœur de saumon magnifique de Philippe Rochat. J'ai coupé des tranches de 4 mm d'épaisseur à peu près. Je trouvais que c'était meilleur à cause de cette sensation de chair, de texture. On les coupe habituellement beaucoup trop fin, les pré-tranchés dans le commerce.
Alors, le pré-tranché est coupé très fin, partiellement pour cacher le taux de matière grasse, hein, parce que si on avait une tranche qui faisait 4 mm et en mordant dedans, vous avez du gras autour des lèvres, c'est très désagréable. Donc sur un produit de haute qualité, on n'est pas obligé de couper le saumon tout fin, et des tranches faisant 4 mm voire 5 mm, où quand on mord dedans, on sent la chair, on sent la structure, là on a quelque chose d'extraordinaire. C'est ce qui fait la différence entre le produit de supermarché et le produit haut de gamme.
Poivre dessus ou pas de poivre ?
Pourquoi ajouter toujours plus ?
Mais calmez-vous.
Par contre, vu que vous me tendez la perche, sur votre assiette, là, vous avez un petit morceau de ferrat qui est roulé.
Oui.
On m'a soufflé au fait d'associer de la ferrat avec du foie gras.
C'est bon ?
Écoutez, ça m'a paru complètement aberrant. Et puis,
on goûte.
Je pense qu'il faut tous essayer, changer d'avis et n'engager à rien. Et je trouve qu'il y a une association qui est très très bon.
Oui.
C'est un de nos poissons du lac qu'on peut associer avec du foie gras. Donc je trouve que là, on repart sur de nouveaux goûts, de nouvelles conquêtes.
Puisque je vous ai tendu la perche, vous me la rendez, la perche fumée.
La perche fumée.
La boya.
La boya qui est la grosse perche, ça peut se travailler. Mais au fait, on entend toujours les poissons du lac, la perche. Ça, c'est un réflexe. Depuis de nombreuses années, on a plein d'autres poissons dans notre lac qui sont excellents. On ne parle jamais de la lotte, qui est un poisson magnifique avec une chair ferme. Ce poisson n'est pas joli.
Non, il a une sale tête.
Il a vraiment une sale gueule, on ne peut pas dire autrement.
Ouais.
Mais il est tellement bon. pourquoi s'acharner sur la perche alors qu'on a déjà des problèmes d'approvisionnement?
Parce que la lotte, il n'y en a pas. Il faut la trouver, la lotte. Il n'y en a pas beaucoup, beaucoup de lotte, si.
Alors, la lotte, il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup.
Mais le marché n'est pas développé.
Mais ce n'est pas un gros poisson. Hein. Ça reste quand même un petit poisson.
C'est des poissons qui font 700-800 grammes en moyenne.
Ouais. Ouais. Alors, j'aimerais revenir aussi sur le... Parce que vous me faites quand même marrer. Vous dites, c'est trop gras, etc. Vous ajoutez de l'huile d'olive sur le saumon, on peut quand même se poser la question. Et puis surtout, imaginez quand même ce que les Russes ont inventé. C'est la vodka, là autour, sur le caviar, parce que c'est gras, sur le saumon, parce que c'est gras, pour rincer le tuyau. Bon, c'est peut-être pas pour les enfants, mais la vodka, ça dégraisse, non?
Alors, la vodka, ça dégraisse, comme vous le dites. Je signale quand même qu'au Suisse romande, nous avons un fabricant de vodka, hein,
oui.
Un vigneron qui fait de la vodka excellente, qui se marie très bien avec mes produits. Et puis, moi, je propose, pour rester un petit peu plus esprit british, de consommer le saumon avec un petit peu de whisky.
Ouais, c'est vrai que c'est bon. Vous avez goûté, Jean-Charles?
Oui,
c'est un peu tôt, hein, évidemment.
Non, mais... vous savez, il n'y a pas d'heure pour les braves.
Oui, nous sommes vraiment braves. Bon, faut remarquer, on n'a pas été rincés au whisky.
Non, non, bien sûr. Mais et puis alors, je sais pas, un grand Bourgogne blanc aussi, c'est pas mal, non?
Un autre de mer blanc.
Ah, ou un autre de mer, alors.
Là, on est vraiment dans l'esprit de la Gironde, quelque chose qui passe aussi très bien.
Bon.
Et un chasselas de chez nous peut aussi bien aller.
Alors, on trouve plus de saumon en Suisse, mais autrefois, il y en avait plein.
Alors, il y en avait plein. Bien sûr qu'il y en avait plein. Ça, c'était terrible parce que. Dans les contrats d'engagement environ 1850, dans les employés de maison à Bâle, les gens avaient exigé de ne pas manger plus de 3 fois par semaine du saumon.
Le personnel. Tellement il y en avait.
Tellement il y en avait. Il suffisait de mettre un filet et puis de ramasser.
Ouais, il y en avait trop, quoi.
Il y en avait pas trop, il y en avait énormément et ça paraissait immuable.
Et il y en avait jusqu'où des saumons en Alors, Suisse le, Jusqu'à Fribourg, il paraît.
Le saumon montait jusqu'à Fribourg. On en avait aussi dans la Birse, donc au Jura. Et ça, c'est des choses que les gens ont oubliées. Ça fait 100 ans, un petit peu plus, et les gens l'ont oublié.
Et ce n'était pas un produit de luxe.
Et puis maintenant, j'ai retrouvé des documents qui disent qu'en 1915, dans le canton d'Argovie, on avait encore pêché plus de 1000 saumons.
Wow.
Et tout ça a disparu. L'industrialisation a amené des polluants. Il y a eu des barrages sur le Rhône. Et tout ça a été détruit.
Mais alors, on lit quand même périodiquement, ça y est, on a retrouvé un saumon à Bâle, donc on va vers le beau. Et vous pensez que les saumons vont remonter ou est-ce que c'est anecdotique?
Alors, on a quelques poissons anecdotiques qui remontent. Mmh. Et le saumon est un poisson, pour qu'il puisse, je dirais qu'il y ait une pérennité, il faut qu'il y en ait des milliers. C'est un poisson qui vit par bande. Et on revoit quelques saumons maintenant. Sur les milliers d'alevins qui ont été remis, il y en a quelques dizaines qui sont remontés. La difficulté, c'est qu'en mer, on a enlevé leur... Pas enlevé, mais au fait, leur lieu d'engraissement et de reproduction, vie.
C'est vous.
Alors, dans la mer du Nord.
Mer du Nord. Ils ne vont pas aux sargasses, ça, c'est les anguilles.
Ça, c'est les anguilles, oui.
D'accord.
Donc, ces lieux où ils s'engraissent disparaissent petit à petit. Le poisson fourrage disparaît. Ils se font prendre de les filets. Ensuite, la remontée du Rhin est une catastrophe. Il y a des barrages, il y a des bouchons vaseux, il y a de la pollution. Et quelques miraculés arrivent à Bâle. Et c'est vrai que ça fait des jolis articles dans des journaux. Mais on est à des années-lumière d'avoir la pérennité dans ce cycle de reproduction.
Alors, bonne année au saumon. Bonne année 2012 aux auditeurs.
Et bonne année à vous, Serge Porchet, parce que c'est délicieux. Vos produits sont magnifiques. Ben, il est un peu tard pour les commander pour ce soir, je pense.
Alors, pour ce soir, ça va être un petit peu difficile. Par contre, on se tient prêt dès le 15 janvier pour accueillir les clients.
Tout de suite, quelques nouvelles de la route.
Infotrafic RSR.
Neige et pluie rendent les conditions de circulation ardues sur les routes de Suisse romande. La situation est difficile en Valais où les restrictions suivantes sont en vigueur. La ligne de ferroutage de la Fourca est interrompue. Le col des Montées est fermé jusqu'à nouvel avis. Les trains routiers et les semi-remorques ne peuvent pas emprunter le col du Saint-Plon ni l'axe du Grand Saint-Bernard en direction de l'Italie. Et plusieurs routes des Alpes valaisannes sont fermées en raison d'un fort risque d'avalanche. Les chaînes sont obligatoires sur de nombreux autres tronçons. Davantage d'informations sur le trafic et l'état des routes en Suisse sont disponibles au numéro 163 au prix de 90 centimes l'appel puis de 90 centimes la minute.
Infotrafic RSR en collaboration avec les CFF et le TCS.
Voilà, et bien miam miam, le dernier miam miam de l'année, c'est terminé.
C'était vraiment miam miam. Hein.
Bien sûr, wow. Il nous reste à souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année à nos auditeurs. Et nous espérons les retrouver, si vous êtes d'accord Daniel, l'année prochaine.
Si nous en sommes capables.
Bah oui, on va être sages quand même ce soir.
On va essayer.
Très bien, alors bonne année à tous.
La première vous offre l'heure.
Il va être 9h sur la première.